deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
Une présentation de la bijouterie Daniel Blatt Diamantaire.
On est à deux, c'est mieux, en direct de nos studios avec Jocelyne Cazin. Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour Luc, ça va bien, ça va bien. Le son est faible par contre.
Ah, je vais vous le monter. Attendez un petit peu. Je sais pas si c'est celui-là.
C'est beau.
Oui, c'est bon. Madame Cazin, vous êtes ici pour parler de votre livre « Ma véritable identité ».
Oui.
D'abord, est-ce que vous avez hésité à le faire, ce livre-là?
Non seulement j'ai hésité, j'ai même refusé.
OK.
Pendant plusieurs années, j'ai refusé de publier ma véritable identité parce que tant qu'à publier sa biographie, autant être vrai.
Oui.
Et non pas être vrai à moitié, ce que je ne suis pas. Alors, en 2011, quand Nadine Lauzon de Libre Expression m'avait demandé d'écrire ma biographie, j'ai carrément dit non, je n'étais pas prête à me révéler à ce moment-là. Alors, j'ai écrit « J'ose déranger ». Ce sont des réflexions sur la base de mes expériences personnelles et professionnelles. C'est biographique, mais ce n'est pas ma biographie. Mais elle a récidivé en 2018, puis là, probablement que j'ai dû prendre ça comme une thérapie. Et je lui ai dit « Regarde, Nadine, je vais écrire ». Mais je ne te garantis pas que je vais vouloir publier. Et c'est seulement en juin cette année, en 2020, que finalement j'ai accepté de publier et en décidant de m'assumer totalement dans tout ce que je suis et tout ce que j'ai été.
Est-ce que c'est thérapeutique, finalement, écrire un livre comme ça? Est-ce qu'il y a d'en parler, de donner des entrevues, est-ce qu'il y a un poids qui est parti?
Un poids, vous dites? Tous les poids du monde sont partis, Luc, honnêtement. Je me sens, depuis quelques semaines, le livre a été publié le 30 septembre, j'ai fait beaucoup d'entrevues. Il y avait une espèce de boule, une angoisse existentielle que j'avais depuis des années à la poitrine, qui m'assaillait, dont personne ne savait. Là. Moi, je suis une personne enjouée, je suis une personne de bonne humeur, je suis une personne extrêmement sociable. Alors, mais derrière tout ça se cachait cette espèce d'anxiété et le refus de révéler ce que j'étais. Puis c'est pas juste au niveau de la sexualité, c'est le sentiment de rejet que j'ai vécu toute ma vie. Je veux dire, ça, les gens ne se doutent pas de ça. La maudite Française que j'étais plus jeune... Et j'ai caché cette identité française pendant des années également. Bref, j'ai caché pas mal d'affaires, mais là, ils sont tous là dans ma véritable identité.
Est-ce qu'il y a une fierté quand vous avez terminé d'écrire le livre?
Je vous avoue humblement que je suis assez fière de l'écriture de ce livre-là parce qu'il est... Et en plus, ça ressort beaucoup dans les témoignages, dans les commentaires que je reçois des gens qui ont lu mon livre. C'est une écriture qui me ressemble dans ma façon de parler. Il y a beaucoup de gens, des gens qui me connaissent, qui me disent « Jocelyne, on a l'impression de t'entendre, à te lire ». Et ça se lit facilement. Mais de toute façon, vous seriez le meilleur critique, vous l'avez lu, mon livre.
C'est vraiment excellent. On apprend évidemment plein de choses sur vous qu'on ne se doutait pas, bien sûr. Et on parle du rejet, vous avez parlé de la peur du rejet, mais ça a commencé très jeune parce que votre grand-mère a refusé de vous voir.
Ouais.
Parce qu'il y avait chicane de famille, hein, quelque part, parce que votre père et votre mère venaient de deux milieux complètement opposés.
Oui.
Et elle a refusé de vous voir.
En fait, c'est pas moi
c'est
comme
votre
ma mère.
En fait. Ouais, c'est
parce
ça.
Que ma mère était repartie.
Mais vous étiez là.
Ah ben oui, mais j'avais 4 ans. Et ma mère était repartie en France pour voir sa mère qui était souffrante. Et elle m'a amenée. Dans l'espoir, évidemment, de rencontrer sa belle-mère. Et non, ma grand-mère Cazin a refusé à ce moment-là de rencontrer ma mère parce qu'elle n'était pas, entre guillemets, assez digne, ou en tout cas, c'est mon interprétation, parce qu'ils n'étaient pas du même milieu. Du côté de mon père, c'était très bourgeois, et du côté de ma mère, c'était des locataires fermiers qui travaillaient pour des bourgeois. Alors, évidemment, c'est le choc des types de famille.
Oh oui.
Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que mes parents ont émigré au Canada.
Et il y a eu un restaurant. Vos parents ont eu un restaurant pendant plusieurs années.
Oui.
Ça a été très difficile pour votre père, cette période-là, qui ne faisait pas ce qu'il aimait dans la vie. En fait, c'est vous qui l'analysez comme ça, mais c'est un peu ça.
C'est moi. Vous savez,
c'est votre propre analyse.
Je fais peut-être ma psychologue à Saint-Saëns, mais... En fait, si on veut remonter, là, mais je ne veux pas tout vous raconter parce que vous n'avez pas acheté le livre. Mais disons que ma mère a eu le premier restaurant français à Saint-Sauveur en 1954. Et au début, mon père travaillait dans la construction et ma mère, elle travaillait à son restaurant. Mais au bout d'une dizaine d'années, le restaurant étant si populaire que là, ils ont eu une décision très difficile à prendre, c'est-à-dire est-ce qu'on engage des employés ou est-ce que mon père laisse le métier qu'il adore? Lui, il était ébéniste et menuisier. Et finalement, mon père a décidé de travailler avec ma mère. Mais dès lors, il est devenu un homme, à mon avis, frustré, pogné intérieurement, parce que, souvenez-vous, dans les années 60, là, l'homme qui travaille pour sa femme,
c'était pas bien vu.
C'était pas bien vu. Alors, je raconte tout cet épisode qui n'a pas été facile, parce que ça s'est répercuté sur moi aussi.
Est-ce que la peur du rejet, ça vient un peu de là? D'avoir été un peu de cette relation-là avec votre père vers la fin?
Bien, c'est-à-dire que la peur du rejet, c'est que je l'ai vécu vraiment quand j'étais enfant. Moi, la première fois que je suis allée à l'école, la maîtresse d'école dit « Toi, tu parles comme tout le monde ». Parce qu'à ce moment-là, j'avais 5 ans et c'est sûr que j'avais l'accent de mes parents, qui était l'accent français. Alors, j'étais la maudite française du village. Et alors ça a été véritablement mon premier rejet, mais des rejets, j'en ai eu d'autres. Dans mes milieux de travail, à l'époque, au début des années 70, on ne voulait pas des femmes dans l'information. Alors ça, c'est un autre rejet. Rejet de mon père aussi, rejet de ma mère aussi, quelque part. Il y en a eu des rejets. Rejet des hommes aussi. Ouais. Oui. Et ça a été extrêmement dur parce que j'ai pris du poids. Après ma séparation avec mon mari, j'ai pris un poids excessif. J'ai pris 50 livres en 6 mois. Et les deux hommes les plus importants de ma vie, qui étaient mon père et mon amant à l'époque, m'ont rejeté parce qu'ils trouvaient que j'étais trop grosse. Alors ça change une vie aussi. Et d'ailleurs, dans mon premier livre, je raconte cet épisode-là. Et après l'avoir raconté, je dis « Dès lors, j'ai fait le deuil de tout un pan de ma vie ». Et ça m'a étonnée à l'époque, quand j'ai fait plusieurs entrevues sur mon livre « J'ose déranger », que les journalistes ne cliquent pas là-dessus. C'est quoi le pan de votre vie dont vous avez fait le deuil? Bien là, je le raconte dans ma véritable identité.
Il y a un coming out dans ce livre-là. Vous avez eu des relations avec des femmes. Oui. Vous n'avez jamais voulu en parler, mais non. Il y avait des rumeurs. Il y a même quelqu'un qui l'a dit en ondes.
Ah oui?
Qui l'avait sous-entendu, il me semble, dans le livre. Vous racontez l'histoire.
Là, oui, absolument. J'ai vécu des affaires un peu plates. Oui.
Et donc, pourquoi maintenant? Pourquoi faire ce coming out-là maintenant?
Bien, c'est-à-dire que moi, j'appelle ça un coming out à l'envers. Je ne suis pas lesbienne, je ne suis pas homosexuelle. J'ai grandi hétérosexuel. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup aimé les hommes et j'aime encore beaucoup les hommes, d'ailleurs. Alors, si on veut, on peut peut-être me qualifier, s'il faut absolument être qualifié, de bisexuel, mais en même temps, j'ai pas envie d'être cataloguée. Mais pour revenir à votre question, parce que justement, j'étais tannée des rumeurs, parce que des rumeurs, il y en a eu plus qu'une, et quelque part, moi, depuis une vingtaine d'années que j'ai envie de faire ma vie avec un homme, bien, il y a eu c'est un peu comme des handicaps, parce que les hommes pensent que je suis lesbienne, alors ne me courtisent pas. Alors donc, un peu pour faire taire les rumeurs.
Est-ce qu'ils avaient peur de ça ou ils avaient peur de la journaliste, de la femme forte?
C'est excellente question, mon cher Luc. Écoutez, il y a même un moment donné, j'avais entrepris une relation avec un monsieur, et puis là, au bout de quelques semaines, il dit « Ah, il dit, sais-tu, j'ai pas envie de me faire appeler Monsieur Cazin. »
Ah oui, OK, d'être dans l'ombre.
De Jocelyne Cazin. Et ça vous savez, on appelle ça la rançon de la gloire. Hein? Ouais. Alors, d'être connu, ça a des avantages absolument extraordinaires. Ça m'a permis de bien gagner ma vie. Mais dans sa vie personnelle, c'est pas toujours drôle parce que effectivement, ça crée des attentes. Moi, des fois, je me suis posé la question, est-ce qu'on m'aime parce que je suis Jocelyne ou est-ce qu'on m'aime parce que je suis la madame de la télé? Tu sais, c'est pas toujours évident, là.
Et il faut le déceler à chaque fois qu'on entend une relation avec quelqu'un, en fait.
Mais comme je suis journaliste d'enquête...
Ça devrait se faire assez bien. Vous avez été mal accompagné à quelques reprises en lisant le livre. Est-ce que quand vous l'avez écrit, il y a un constat de dire « Mon Dieu, j'ai donc bien eu des relations
étranges. » Oui, puis j'ai même pas tout écrit. J'ai pas tout écrit, okay. En plus.
Il y en a qui sont pas dedans.
Il y en a qui sont pas dedans. Je me suis gardé une petite gêne.
Mais quel regard on a après avoir écrit ça, puis avoir eu quelques-unes des relations assez, ouais, assez difficiles, puis des gens pas fins avec vous, là.
Oui. Bien, écoutez, j'ai fait ressortir ces relations difficiles, même parfois toxiques. Je pense que ça, c'était dans un but thérapeutique et aussi, en même temps, peut-être pour aider des femmes et aussi des hommes qui ont peur d'être seuls, OK, puis qui vivent avec du n'importe qui. Quand je dis avec du n'importe qui, là, genre les relations toxiques. Puis je me dis, si ce livre-là peut aider des gens à s'éviter ça, à se sauver de ça, on n'est pas obligé d'être malheureux dans la vie.
Hein? Non, effectivement.
Alors, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent des relations difficiles parce qu'ils sont dépendants émotivement. Alors ça, c'est franchement pas drôle.
Est-ce qu'en écrivant ce livre-là, il y a un désir d'aider les autres à assumer qui ils sont?
Complètement.
Parce qu'il y a des gens qui gardent cette identité-là, cette bisexualité-là, ou homosexualité, oui, dans certains cas, oui, qui gardent ça toute leur vie puis qui vivent pas bien avec ça.
Oui, complètement, Luc. Honnêtement, au mois de juin, quand j'ai finalement donné mon dernier manuscrit à Nadine Lauzon, l'éditrice de Librex, le but ultime de l'acceptation de la publication de ce livre-là, c'est si ça peut aider des femmes et aussi des hommes à enlever cette espèce de boule d'angoisse que moi j'ai eue pendant tellement d'années, j'aurais fait œuvre utile à mon petit niveau. C'est vraiment le but de ce livre-là.
Est-ce que vous avez déjà reçu des témoignages?
Oh, j'en ai plein. J'en ai plein. Si vous allez sur mes pages Facebook, oui, j'en ai plein, des courriels, des textos, vraiment. Et je dirais que 99% c'est positif.
Tant mieux.
Alors, je suis contente. J'ai eu deux, trois textos, messages là, sur Facebook qui étaient franchement hargneux, qui étaient vraiment pas le fun.
Ouais.
Mais j'en ai tellement eu des bons. Mais il faut que je vous raconte quelque chose. J'en ai eu un d'une amie. Elle n'a pas lu le livre. C'est une amie d'enfance, là. Mais elle a entendu des entrevues. Puis vous savez, vous êtes intervieweur. Alors, on donne des bribes, ouais, de ce que mon, oui, livre peut être. C'est pas le livre que je suis en train de vous raconter. Mais elle a écouté quelques entrevues ou une entrevue et elle a été déçue. Elle a été choquée par mes propos.
Ah oui, OK.
Et là, j'ai hâte de lui parler parce que je me dis, mais pourquoi? C'est ma véritable identité, ça ne l'implique pas elle.
Effectivement.
Et c'est ma perception de mon histoire. Puis vous savez, c'est comme ça. Dans des familles, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs.
Non, je suis tout seul.
Ah, vous êtes comme moi, on est unique.
Voilà.
Sous toutes les formes. Alors, ben, des gens qui ont des frères et sœurs, et qui vont avoir une perception de leurs parents ou du vécu qu'ils ont eu pendant toute leur enfance, leur jeunesse, et qui vont être totalement différents, tellement qu'on va se demander, coudon, est-ce qu'ils sont issus de la même famille? Ça peut arriver, ça. En tout cas, je vous raconte ça, là, parce que ça vient d'arriver là, hier, où j'ai eu son texto, qui faisait la démonstration qu'elle n'était pas bien dans ce que j'avais dit.
Dans le livre, vous racontez que vous avez perdu votre fils. On en a parlé un peu tout à l'heure dans une virée aux États-Unis. Vous avez accouché prématurément de, oui, votre fils à 7 mois, si je me souviens bien.
Oui.
C'est comment, avec le recul, cette épreuve-là pour vous?
Aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, c'est libéré. Là. Je me sens libéré, surtout après l'écriture de cet épisode aussi qui a été extrêmement malheureux dans ma vie. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, la culpabilité, elle était là, puis pas à peu près, là. Il y en avait des couches et des couches de culpabilité pendant des années. Et on s'est bien plu aussi à me faire sentir coupable du côté de mes parents, du côté de mes beaux-parents, du côté de mon ami, de mon mari, du côté de certains amis également. Parce que, regardez, ce livre-là, c'est un livre où je fais la démonstration que Jocelyne Cazin était assez frivole, merci, là.
Oui.
Vous avez l'air d'accord?
Est-ce que votre entourage savait tout ça, vos amis,
non,
proches? Est-ce qu'ils l'apprennent en lisant le livre?
Il y a très, très peu de personnes dans ma vie qui savaient toute l'histoire. Disons qu'il y a des amis qui savaient une partie de mon histoire, d'autres amis une autre partie de mon histoire. Bref, là, tout le monde sait tout.
Il y a l'alcool aussi, oui. Qui est dans le livre, qui est là depuis très jeune quand même, assez jeune, au secondaire, si je me souviens bien déjà.
14-15 ans, là, j'ai aimé boire.
Mais ça n'a jamais nuit au travail.
C'est ça que j'en reviens pas. J'en reviens pas, Luc. Moi, j'ai l'impression que je vis sur du temps emprunté. C'est pas grâce à moi, si je suis ici. J'ai l'impression que je dois avoir des anges gardiens qui me protègent ou qui m'ont protégé. Par exemple, quand je conduisais en état d'ébriété, puis ça, c'est arrivé plus qu'une fois, là. Vous savez, dans les années 70-80, là, avant la conscientisation de l'alcool au volant, les gars, ils disaient...
avec une bière entre les jambes.
La bière entre les jambes, là. Ça, j'ai pas fait ça, là. J'étais pas de ce genre-là. Mais ce qui m'a sauvé probablement, c'est peut-être ma détermination, ma passion, mon envie de vivre, ma rage de vivre en même temps. Il y a beaucoup de contradictions chez Jocelyne Cazet.
Il y avait du théâtre plus jeune. Vous étiez passionnée par le théâtre.
Absolument.
Est-ce que c'était ça le souhait au départ, d'être actrice?
Ah ben, au départ, je ne sais pas si je l'ai écrit dans mon livre, mais moi, j'ai voulu être missionnaire.
Okay.
J'ai voulu être avocate. J'ai voulu être chef d'orchestre. J'ai voulu être comédienne, j'ai voulu être chanteuse, j'ai même gagné des concours de chant, vous avez vu ça dans mon livre. Et donc, j'ai voulu tout faire. Tout ce qui m'allumait, j'ai voulu le faire. Et finalement, j'ai mal tourné, je suis devenue journaliste.
Mais c'est arrivé comment, journaliste?
Ah ben ça s'explique très bien aussi, puis je pense que je l'explique bien dans mon livre. C'est que au restaurant... Il y avait des vedettes, il y avait des personnalités publiques qui venaient manger au restaurant à Saint-Sauveur. Ça s'appelait le Petit Coin de France, si jamais il y a des gens qui sont allés à Saint-Sauveur dans ces années-là. Il y avait notamment Bernard de Rome, il y avait Manuel Maître, il y avait André Lachapelle. En fait, il y avait plein de personnalités publiques. Alors, et je parlais avec ces gens-là. Moi, quand je travaillais au restaurant, je parlais avec ces gens-là. Mais même sans eux... à 8-9 ans, moi, mes parents m'ont offert une enregistreuse à bobine, là, vous savez, la grosse boîte. Puis j'allais dans le village, puis j'interviewais le monde.
Okay. Oui. Donc, il y avait déjà ça.
Je l'avais en moi.
Espèce de fibre, là.
Mais le fait de travailler dans un restaurant, c'est de travailler en communication.
Oui.
Hein, c'est pas compliqué. Vous abordez les gens, vous travaillez aussi en fonction du regard des autres. Hein, vous voulez plaire. On est là pour plaire en communication.
Oui.
Peu importe le type de communication. Donc, très jeune, moi, j'ai été formée. Comment dire? Ma route, elle a été tracée pour être ce que je suis devenue, ça, c'est sûr.
Il y a eu des rencontres marquantes, dont Barbara.
Ah, mon Dieu!
Qui était une de vos idoles. C'est arrivé un peu par hasard. C'est une collègue qui vous a demandé de l'accompagner.
Oui.
C'était comment, ce moment-là, ça
vous a
pour
frappé,
vous?
Ça, ouais,
ben. Barbara, moi, je l'aime beaucoup, puis je connais pas beaucoup de monde qui l'ont rencontrée. C'était comment, ce moment-là,
j'ai
pour vous?
J'ai été extrêmement privilégiée. C'est ma collègue Josée Dupuis, à l'époque, qui couvrait le culturel à TVA, qui, elle, ne connaissait pas Barbara, mais elle savait que j'étais une fan finie de la chanteuse. Et elle m'a dit, écoute, si t'as rien ce matin, là, j'aimerais ça que tu viennes à la conférence de presse, parce que tu pourrais peut-être poser des questions. Et écoute, j'en parle, j'en ai encore des frissons. Là, c'est un des plus beaux cadeaux de ma vie de jeune. Mais je crois que c'est en 86 ou 88, là, je ne me souviens pas trop. Et effectivement, j'ai posé beaucoup de questions. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai retrouvé cet extrait de conférence de presse 10 ans après la mort de Barbara dans une émission de Monique Giroux à Radio-Canada qui célébrait les 10 ans et qui est allée chercher... Imaginez-vous cet extrait que vous pouvez écouter d'ailleurs sur le web. Là, si vous faites, je pense qu'on peut faire Jocelyne Cazin, Barbara.
Okay.
En tout cas, j'ai l'impression qu'on peut retrouver ça. Ça a été une rencontre extrêmement... je ne sais pas si je raconte ça dans mon livre. Elle m'a offert une affiche. Est-ce que
oui, c'est écrit. Vous l'avez invitée à souper?
Ben oui, elle n'a pas voulu.
Et finalement, vous a donné une affiche.
Non, mais faut-tu être culottée?
C'est quelque chose, quand même.
D'oser inviter Barbara à souper. C'était l'adolescente. J'étais redevenue une adolescente devant ce monstre sacré de la chanson. Et quel sens de l'humour! On peut penser que Barbara était un être extrêmement, comment dire, noir,
ouais, ben avec les
sombre,
les textes,
avec
les chansons.
Et pourtant, en conférence de presse, elle était d'un humour incroyable. Elle avait la réplique. Ça a été fantastique.
Parler des années de journalisme, évidemment, dans les rencontres, dans les collègues qui ont été marquants, il y a Claude Poirier qui était là dès le départ.
Oui.
Et qui a toujours été là pour vous, en quelque part.
Claude Poirier, ben, il n'a pas été là dès le départ, mais il a été là à partir du moment où j'ai commencé à travailler à CKAC. Mais j'ai commencé à le côtoyer à CKVL avant. Et sous des airs un peu gros nounours, un peu bourru, ça a été un homme vraiment extraordinaire dans ma vie professionnelle parce que lui m'a ouvert des portes. Contrairement à plusieurs de mes collègues qui ne voulaient pas de femmes dans le milieu de l'information, surtout quand je me suis retrouvée au Fait divers, il n'y avait pas de femmes au Fait divers. J'ai été la première femme au Fait divers au Québec. Et Claude Poirier, sur les lieux d'un crime, sur les lieux d'un incendie, il me donnait des contacts, il me disait « Tiens, ça, c'est l'inspecteur de police, ça, c'est l'inspecteur pour les incendies. On allait manger ou prendre un café ensemble. » Non, ça a été... Je lui rends hommage à Claude, oui.
C'est précieux, ça, un collègue comme ça, quand on commence?
Bien, écoutez, Luc, on peut dire ce qu'on veut, mais si j'avais pas eu Claude Poirier dans ma vie, est-ce que je serais ici aujourd'hui? Il y a des êtres qui sont importants dans notre vie, dans notre parcours, qui sont des mentors, qui sont des guides, qui sont des coachs, appelez ça comme vous voulez, mais qui sont là pour vous donner le coup de pouce et que si ces gens-là n'étaient pas là, bien peut-être que... Vous savez, peut-être, moi, j'aurais pu mal tourner. Hein, je pense que vous l'avez bien lu dans mon livre. C'était pas évident, mon affaire. Mais j'ai toujours été chanceuse parce qu'il y a toujours eu des gens... Il y a eu des mains qui m'ont été tendues et que j'ai prises aussi. Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a une main tendue, mais il faut savoir la prendre.
C'est vrai.
Il faut prendre ses responsabilités aussi.
Quand on a peur du rejet et qu'on gagne le prix Judith Jasmin ou qu'on gagne des prix plus tard donnés par le public, qu'on est une figure publique, que les gens nous disent qu'ils aiment ce qu'on fait...
Ouais.
Est-ce que ça vient conforter ça? Est-ce que ça vient enlever ça un peu, cette peur du rejet-là?
Oui. Bien, ça va avec ce qu'on vient de se dire. Il y a des gens, il y a aussi des événements. Donc, le prix Judith Jasmin en 1985, c'est un événement marquant dans ma vie parce que l'année d'avant, je m'étais fait dire par un animateur très populaire que j'étais pas bonne comme journaliste. Il m'aimait pas, lui. Alors, évidemment, mon self-esteem en avait pris un sérieux coup, puis je me demandais si je devais continuer ou arrêter. Et là, un an plus tard, je remporte le prix Judith Jasmin pour le meilleur reportage radio au Québec, quand même. Alors ça, ça a été le coup de pouce, encore une fois. Voyez-vous, il y a toujours eu... C'est pour ça que je parle de mes anges gardiens. Ça n'a aucune connotation religieuse, mais... C'est mes anges autour de moi qui sont là et je me sens protégée. Mais en même temps, moi, je suis beaucoup dans la philosophie, nous sommes la somme de nos pensées. Alors, si je pense négativement, ça serait surprenant de recevoir du positif, comprenez-vous? Je suis quelqu'un qui est assez positif dans ma vie. Je suis aussi, dans mon signe chinois, je suis une tigresse.
Okay.
Donc, je rebondis. Je me relève. J'en ai mangé des coups de pied au derrière, mais justement, ça m'a fait rebondir. Ça m'a pas écrasé.
C'est sûr que quand on pense à Jocelyne Cazin, il y a le mot J.E. qui vient en tête. Évidemment, à quel point ça a été marquant pour vous, cette émission-là, dans votre carrière, dans votre vie en général?
Oui, oui. Bien, ça a été marquant parce que j'ai vécu le meilleur de ma vie professionnelle avec J.E., mais malheureusement, j'ai aussi vécu le pire. À cause du suicide de Gaëtan Giroir, mon collègue, mais ça a été mon ami. On était comme ça, Gaëtan et moi. Il m'appelait sa grande sœur, c'était pas pour rien, là. Grande sœur, pourquoi? Parce qu'on avait quand même 15 ans de différence. Et pourtant, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on avait le même âge.
OK.
Oui, puis il y a même des gens qui pensaient qu'on était mari et femme, tellement il y avait cette chimie, il y avait cette complicité. Et pourtant, non, on n'était que des grands amis debout.
Et il y a eu, évidemment, le passage à Québec de cette émission-là de J.E. On sent dans le livre que ça a été difficile. Ce bout-là, en partie pour Gaëtan, parce qu'il était père de famille, c'était pas simple, ce bout-là où on allait à Québec.
Oui. En fait, c'est J.E. en direct. Ouais. C'est qu'à partir de 1997, les patrons nous ont offert d'animer un J.E. en direct, le midi. Et ce qu'il faut savoir, là, c'est peut-être de la poutine interne, mais vous allez comprendre, le CRTC, qui est le Conseil de la radio et de la télédiffusion canadienne, exigeait que chaque réseau, c'est-à-dire chaque station de télé, produise 21 heures de programmation locale, régionale par semaine. Alors, il fallait donc combler ce 21 heures à Québec, et c'est pour cette raison-là que TVA avait décidé d'exporter JE en direct à Québec. Mais là, il fallait qu'on anime de Québec. Puis, en tout cas, je raconte ça dans mon livre, et ça a été, ça n'a pas été commode, parce que finalement, Gaëtan s'est retrouvé à Québec en studio, mais moi, j'étais à Montréal, mais dehors, c'est-à-dire, comme on dit en langage interne, en remote.
Ouais.
Hein, j'étais, je ne sais pas comment on dit ça en français.
Bonne question, on dit remote aussi.
C'est ça, exact. Donc, en tout cas, j'étais partout sauf en studio et souvent dans des conditions abominables au niveau du son, à plein de niveaux. Bref, ce que je dis dans le livre, en racontant tout cet épisode-là, comment ça se fait que c'est lui qui se soit suicidé, parce que c'est moi qui aurais dû se suicider. Parce que lui, il travaillait dans des conditions gagnantes. L'envers de la médaille, c'est qu'à un moment donné, son épouse a décidé de retourner travailler à Saint-Hyacinthe ou à Saint-Hubert. Bref, il s'est retrouvé tout seul dans cette grande maison. Et je pense que ça a accentué son insécurité, sa solitude. Parce que Gaëtan était comme moi, grand insécure. C'était quelqu'un qui doutait beaucoup de lui. Et pourtant, Gaëtan, c'est un être brillant. Il était en plus le success story de TVA. Il était le chouchou des Québécois. Eh bien, ça n'empêchait pas que ce gars-là était tout petit dans son cœur et dans son âme.
Évidemment, dans JE, il y a eu énormément de menaces, de poursuites. Comment on vit avec ça quand on est là-dedans? Évidemment, nous, on fait notre travail de journaliste. On dénonce des situations injustes. Ouais. Quand on reçoit des menaces comme ça, est-ce que c'est difficile? Vous avez même fait la une du Journal de Montréal, comme quoi vous étiez une cible
des
Hells Angels pendant un moment.
Oui, absolument. Alors, imaginez-vous, là, est-ce que je devrais être fière d'être dans la courte liste des Hells Angels, de personnes que l'on veut tuer? Non, pas du tout. On ne vit pas, on survit d'une certaine façon. Puis, vous savez, pendant quelques années, moi, tous les matins, je regardais en dessous de la voiture s'il n'y avait pas un fil qui pendait, là.
Oh my God.
Alors, c'est que malheureusement, beaucoup de gens prennent la personne. Moi, je suis journaliste, j'ai un travail à faire, puis j'ai essayé de le faire le plus honnêtement possible, de façon la plus intègre possible. Je vous dis pas que j'ai été parfaite, mais les gens souvent confondent la personne et le travail journalistique. Alors, ils s'en prennent à qui? Ils s'en prennent pas au travail journalistique.
Non, je comprends.
Ils s'en prennent à la personne. Et puis bon, alors, c'est ça qui s'est passé à bien des égards.
En 2008, vous avez reçu une cassette de la dernière conférence de Gaëtan Giroir qui a fait une semaine avant son suicide. C'était comment l'écoute de cette cassette-là pour vous?
C'est essoufflant parce que, d'abord, c'est quelqu'un qui m'a envoyé cette cassette-là. Quand même 9 ans après la mort de Gaëtan. C'était une dame d'un organisme de la région de Trois-Rivières. Elle m'avait appelé avant pour me dire, écoutez, j'ai la dernière conférence, en tout cas, elle pensait que c'était la dernière conférence de Gaëtan Giroir, sur cassette, est-ce que ça vous intéresse? C'est sûr que ça m'intéresse. J'ai envie de le voir vivant encore. Et effectivement, c'est comme s'il était vivant au moment où j'ai écouté la cassette. Et il l'a regardé parce que c'est une cassette visuelle, c'est une cassette en VHS.
Ouais.
Imaginez-vous que j'ai fait transférer...
En DVD.
En CD ou en DVD, voilà. Exactement. Et c'est parce que... Écoutez, c'était le... Gaëtan s'est suicidé le 14 janvier, puis je pense que c'était le 6 ou le 8 janvier, si ma mémoire est bonne. Et il parle comme... Il a l'air du gars le plus heureux au monde, là. On se doute de rien. Alors, c'est quand même assez saisissant.
Ouais. Il y a eu la retraite, il y a quelques années déjà. Vous l'avez pris avant le temps. Vous auriez... Techniquement, ça aurait été encore quelques années de plus. Êtes-vous parti au bon moment, selon vous?
D'abord, il y a eu la retraite de TVA.
Oui, oui, la retraite de TVA en premier, effectivement.
Non, savez-vous, j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il faut redéfinir le mot retraite. Ce n'est pas parce qu'on s'en va à la retraite de notre entreprise que l'on se met en retrait.
De vraie raison.
Et moi, je n'ai surtout pas fait ça depuis 2008.
Non.
Au contraire, je suis une femme d'action, puis je pense que je serai jusqu'à 6 pieds sous terre. Est-ce que je suis partie au bon moment pour répondre à la question? Oui. Je suis partie au bon moment parce que moi, j'estime que je suis partie avant qu'on ne me laisse.
OK.
Oui, c'était pas... je ne faisais pas vraiment ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Je faisais de l'éditorial. Et puis, moi, personnellement, je trouve qu'on peut pas, on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas commenter sur tous les sujets si on est spécialiste de rien. Je ne sais pas si vous remarquez, là, aujourd'hui, des chroniqueurs puis des commentateurs, là, tout le monde commente. J'entends des chroniqueurs, là, tous les jours à certaines stations de radio. Sacrebleu, ils sont donc bien intelligents puis brillants, là, pour en savoir autant. En tout cas, moi, je n'ai pas cette brillance-là, puis je suis capable de le dire. Alors, je ne sentais pas non plus qu'on avait vraiment envie de me retenir en 2008. Alors, j'ai décidé de quitter la tête haute et de moi-même ouvrir la poignée de porte.
Il y a eu un passage en politique qui a été court quand même, mais vous avez quand même fait campagne. Vous aviez dit non souvent à une carrière en politique. Vous avez été approché par à peu près tous les partis.
Sauf le Parti québécois et le Parti conservateur et le Parti NPD. Ce sont des partis qui ne m'ont jamais approché. Et évidemment, certainement pas le Parti vert et encore moins le Parti rhinocéros.
Mais c'est comment être, déjà, être désiré en politique? Est-ce qu'on se pose des questions quand on se fait approcher par autant de gens de « est-ce que je suis capable de faire ça? »
C'est pas surtout par quelqu'un qui a ce sentiment de rejet continuel ou la peur du rejet, d'être désiré, je vous avoue que c'est extrêmement flatteur pour mon ego, ça c'est sûr. Mais la dernière fois où j'ai accepté, ou c'est-à-dire la première fois où j'ai accepté plutôt, j'y allais pour les bonnes raisons. J'avais vraiment envie de faire œuvre utile et je pensais que la politique pouvait être un outil intéressant pour faire œuvre utile parce que moi, dès ma tendre enfance, comme je vous ai dit tantôt, j'ai été élevée dans un restaurant, alors je suis une femme de service. J'aime servir, j'aime partager. Et je pense que la politique aurait pu être un bon outil. Mais, et puis j'en parle dans mon chapitre sur mon passage en politique, je pense que François Legault, qui me voyait dans sa soupe, m'a pas envoyé au bon endroit, parce que c'est un endroit, le comté de Chauveau, où les gens sont très tricotés serrés, puis finalement est arrivée dans mes pattes la fille du bout, là, comme on dit, Véronique Tremblay. Alors, mes chances étaient pas mal amoindries. Et aussi, les médias, vous savez, j'en parle dans mon livre, les médias de la région de Québec n'ont pas été nécessairement très tendres avec moi.
François Legault est présentement en pleine gestion de crise. Comment vous le trouvez? Son parti en gestion de crise?
Alors, je vais vous dire exactement ce que je pense, Luc. Moi, je pense que François Legault, avant la crise, depuis qu'il a été élu premier ministre, il a fait la preuve qu'il était un leader. Mais je pense que depuis le mois de mars, il a fait la preuve qu'il était un grand leader. Il est, à mon avis, un grand premier ministre. Et je vais être encore plus raide que ça. Heureusement que ce n'était pas Philippe Couillard qui était premier ministre en cette période de COVID. Je ne suis pas convaincue, moi, qu'on l'aurait vécu de la même façon. Par contre, nuance, parce que tout est nuance.
Oui, oui, assurément.
C'est pas parfait. J'aime beaucoup, beaucoup l'expression qui dit « on est en train de construire un avion en plein vol ». Ce n'est pas parfait. Et moi, quand j'entends des gens accuser le gouvernement, puis c'est la faute du gouvernement. Mais le gouvernement, sachez, mesdames, messieurs, que c'est vous.
Oui.
C'est nous. C'est chaque personne. Donc, oui, il y a une responsabilité collective de par le biais du gouvernement, mais sacrebleu, il y a aussi une responsabilité individuelle. Et on est en train... Hier, je vais vous dire, franchement, hier, j'interviewais Pierre Lavoie.
Oui.
Pour une vidéo corporative et que vous allez pouvoir voir éventuellement là, sur les réseaux sociaux. Mais enfin, bref, il me disait quelque chose d'extrêmement important. on ne reviendra plus comme avant. Oubliez ça, là. Et puis, en plus, le vaccin, là, il n'est pas là pour demain matin, il n'est pas là pour dans 2 ans, il n'est peut-être même pas là pour dans 5 ans. Est-ce qu'on a trouvé le vaccin contre le VIH?
Non. Ben non.
On ne l'a pas trouvé. On ne trouvera peut-être même pas le vaccin contre le coronavirus. Alors, il faut s'adapter à ce nouveau type de vie, à ce nouveau style de vie, qui n'est pas évident, j'en conviens. Mais chacun de nous a une responsabilité pour dire comment, moi, je peux faire mieux dans mon petit environnement pour éviter le pire pour mes proches, pour moi-même, pour ma famille, pour mes amis. C'est ça, notre responsabilité individuelle. Malheureusement, il y a trop de gens qui ne comprennent pas ça. Excusez, c'était mon éditorial.
C'est correct.
Je venais de dire qu'il fallait...
Quand la COVID a commencé, vous étiez en Floride parce que vous avez une résidence secondaire là-bas.
Oui.
Est-ce que ça faisait peur d'être aux États-Unis avec la gestion de crise qu'on avait aux États-Unis moment-là?
Oui, bien, ce qui m'a surtout fait peur à ce moment-là, parce que c'était mi-mars, là, hein, c'est le 13 mars,
ouais.
et moi, je devais revenir seulement le 20 avril. Et je suis sur la côte ouest. Ce qui m'a surtout fait peur, c'est de ne pas avoir d'avion pour revenir.
C'est sûr.
Puis finalement, il n'y a pas eu de problème. Mais vous allez peut-être rire de moi ou vous dire, franchement, Jocelyne, je pars lundi.
En Floride?
Je repars lundi, je m'en vais en Floride par avion, bien sûr. Et j'ai plus peur du gars de la Maison-Blanche que de la COVID là-bas.
C'est sûr.
Parce que là où j'habite, c'est quand même un lieu assez... c'est un lieu fermé. Je me sens protégée parce que je vais me protéger moi-même, là. Je ne fais pas exprès. On verra. Ça, si vous voulez, je pourrais vous faire des petites chroniques là,
ben oui.
De la Floride, vous dire comment ça va.
Mais est-ce que vous avez l'impression que le fait que beaucoup de Québécois n'iront pas en Floride cette année, est-ce que ça va être désastreux pour ces régions-là qui
ça va être
sont peuplées de Québécois?
Ça va être surtout la côte Est, parce que sur la côte Ouest, moi, je me sens assez seule. Il n'y a pas beaucoup de Québécois. Là. Dans le complexe où j'habite, sur 800 personnes, il y a 70 Canadiens puis à peu près 10 Québécois.
OK.
Bon, puis il n'y a aucun des Québécois que je connaisse jusqu'à maintenant qui va venir, en tout cas, cet automne.
Okay.
Ça, c'est sûr. Mais sur la côte Est, alors là, le long de la 95, c'est-à-dire, je dirais, de Boynton Beach jusqu'à Hollywood, là, ou Allendale, ça va être catastrophique pour les Américains. Écoutez, si je ne me trompe pas, c'est 1,5 milliard de dollars que les Québécois dépensent chaque hiver en Floride.
Wow.
Les terrains de golf là-bas, là, ils vont mourir si les Québécois n'y vont pas. Mais en même temps, la majorité des Québécois, ils vont en auto. Ou en véhicule, soit en véhicule motorisé en auto. Alors, ça sera pas drôle, là. Ça sera pas drôle parce qu'on peut pas y aller. Les frontières terrestres sont fermées. Et moi, je pense sincèrement que les frontières terrestres vont demeurer fermées. C'est pas prêt d'ouvrir.
Et on l'annonce toujours au compte-gouttes pour faire un peu miroiter que ça se peut que ça roule.
Que ça se peut. Je pense aussi que peut-être que Trudeau annonce, c'est-à-dire Trudeau puis Trump, là, on ne sait pas qui est-ce qui va être élu le 3 novembre, mais moi j'ai l'impression que ce sont les élections aussi qui vont peut-être déterminer si effectivement on va éventuellement ouvrir les frontières terrestres. Mais j'ai essayé de trouver une explication pourquoi les frontières terrestres sont fermées puis pas les frontières aériennes. La plus logique, à mon avis, que je me suis faite comme hypothèse, c'est que quand vous êtes en auto, vous arrêtez dans les garages, dans les stations-service, peut-être dans les hôtels,
c'est
peut-être
sûr.
Dans les restaurants. Donc, vous augmentez
les
pendant
risques.
2-3 jours le risque de contamination. Alors que dans l'avion, bien, en bon français, c'est un one-shot deal.
Oui.
Vous allez du point A au point B, puis merci, bonsoir, c'est terminé après. Est-ce que ça a de l'allure, ce que
oui, ça, ben oui, ça a du sens. Parce qu'évidemment, descendre en Floride, il faut arrêter
ben
là,
oui,
plus qu'une fois.
Ça prend quand même au moins 28 heures.
Donc, c'est ça. Oui, ça se tient. Ça se tient. La suite pour vous, ce sera quoi?
Ah, la
Est-ce
suite,
que ce sera
c'est
des conférences?
La suite. Les suites, il y a plein de projets. Ben, écoutez, des conférences, là, malheureusement,
ouais, là,
j'en ai annulé.
Ouais, évidemment.
Par contre, apparemment que c'est possible de donner des conférences par le web,
ouais.
Par le biais de différentes plateformes
ouais.
comme Zoom
ouais.
ou autre chose. Peut-être écrire un troisième livre,
okay.
mais pas nécessairement encore ma biographie, parce qu'il y en a quand même un bon bout dans ma véritable identité. Et j'ai des projets aussi avec des jeunes. Moi, je fais du mentorat. Auprès des jeunes. Alors, j'ai encore des projets. Et il y a aussi Benoît Chalifoux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
C'est un nom qui me dit quelque chose. Hein?
Il vient d'écrire « Être à son meilleur ». Et puis, on a beaucoup connecté ensemble. Alors, on a peut-être des projets ensemble. Puis, je vous suggère fortement de l'inviter parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi.
Est-ce qu'il y a un souhait avec le temps de montrer ce qu'on sait ou ce mentorat-là, l'espèce de passation
oui.
des connaissances? Est-ce qu'on a ce désir-là? Plus,
ben, étant
plus on
donné que mon fils est décédé très jeune, comme on l'a dit plus tôt, et donc j'aime partager, puis je pense que la responsabilité des gens qui avancent en âge, c'est de transmettre. Hein? Et comme je n'ai pas d'enfant, ben je le fais auprès des jeunes ou des gens qui veulent avoir cette espèce de transmission de mes expériences ou de mes expertises. Moi, ça me fait chaud au cœur. Puis honnêtement, ça me fait avoir le sentiment d'être utile un peu.
Est-ce qu'il faudrait faire ça un peu plus? Être à l'écoute de ces gens-là, de cette Bien. Génération-là qui ont... un vécu qui va s'effacer
oui.
éventuellement, bien
oui.
sûr.
On en parlait pendant la pause. Luc, moi, je trouve déplorable en Amérique du Nord à quel point on délaisse les aînés et on délaisse le savoir, l'expertise des aînés. Et savez-vous, Jeannette Bertrand vient d'écrire un livre, mais elle a un projet avec des Québécois qui écrivent leur biographie,
leur, biographie ouais.
leur propre biographie, et elle est en train de colliger tout ça. Et de faire la démonstration que le peuple québécois, mais les aînés du Québec, ont une histoire absolument extraordinaire. Et moi, je souhaite qu'il y ait de plus en plus de Québécois, des aînés, qui ont envie de transmettre aux plus jeunes et que les plus jeunes aient envie aussi d'apprendre des plus vieux, mais aussi de leur transmettre leur propre connaissance. Autrement dit, que la connexion intergénérationnelle se fasse. Et on va-tu être dans un meilleur monde? Surtout qu'à l'heure actuelle, puis je le répète, on est dans un monde de transformation. On ne reviendra plus comme avant. Oubliez ça, là. On est dans une nouvelle bulle, on est dans un nouveau type de monde. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer? On a une chance extraordinaire de faire ce monde-là à notre image. Alors que notre image soit la meilleure possible, pourquoi pas?
À la fin du livre, il y a une phrase de Clémence Desrochers
oui.
qui a été marquante pour vous, en fait. J'aimerais ça qu'on la dise parce que...
Mais là, vous allez casser mon pôle.
Bon, on peut dire le gros du sujet, mais en fait, ça revient sur son coming out à elle. Elle n'a pas vraiment voulu faire un coming out.
Non.
Elle a juste assumé qui elle était, point, en fait.
Ben, c'est exactement ma finale. C'est exactement ma finale. Je suis ce que je suis. Et Jocelyne, un point, c'est tout. Et moi, j'ai envie, en tout cas, j'ai envie. Si les gens m'aiment comme je suis, ben tant mieux. Puis ceux qui ne m'aiment pas comme je suis ou qui ont décidé qu'ils ne m'aimeraient plus comme je suis, ben c'est parce que probablement qu'ils ne m'ont jamais aimé véritablement.
Madame Cazin, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Ça a été un bonheur.
Ben,
ça a été un bonheur aussi. Et savez-vous, quand on dit bonheur, le bonheur, là, c'est... J'avais emprunté la phrase de Judith Paré à l'époque, quand elle travaillait à CKAC. Elle disait, le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. Quand on en veut, on s'en fait. C'est ça, le bonheur. Puis moi, je pense que le bonheur, ce sont des instants. Et moi, à mon avis, là, aujourd'hui, j'ai vécu un instant de bonheur avec vous.
Merci, c'est très gentil.
Et debout, en plus.
Merci beaucoup.